Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Vivante Église. Ce numéro est consacré à un colloque qui a lieu à Toulouse le samedi 12 octobre à l'ensemble paroissial du Christ-Roi. Ce colloque a pour thème la scène et la croix, l'Eucharistie vue par les philosophes René Girard et Pierre Gardeil. Si vous voulez connaître le programme et les intervenants de cette journée passionnante, je vous invite à écouter très attentivement l'émission qui va suivre. Deux invités en studio pour nous présenter ce colloque, mais il y en aura d'autres au téléphone. Je salue tout d'abord ceux qui sont à mes côtés. Claire Bressolette, professeure de lettres et de philosophie, spécialiste de l'œuvre du philosophe Jacques Maritain et productrice de l'émission La philosophie réaliste sur Radio Présence. Également présent dans ce studio, Jean-Louis Salasque, correspondant de l'association Recherche Mimétique à Toulouse et producteur de Mimétiquement Votre sur Radio Présence, une émission dédiée à la pensée de René Girard. Bienvenue à tous les deux. Merci d'avoir répondu à mon invitation. On va commencer avec vous, Jean-Louis Salasque, parce que vous êtes l'une des chevilles ouvrières de ce colloque du 12 octobre. Quel est l'objet précis de cette journée et qui en est à l'origine?
Alors l'objet précis, il est dans le titre, dans lequel vous avez trois mots-clés, l'Eucharistie, René Girard et Pierre Gardeil. Donc il faut un peu expliquer chacun des trois. Je commencerai par René Girard, parce que René Girard, bon, c'est un anthropologue chrétien, mais quand on dit que c'est un anthropologue chrétien, c'est pas un anthropologue qui va à la messe tous les dimanches. C'est un anthropologue pour qui le rôle du christianisme est essentiel au cœur même de sa pensée. C'est-à-dire que la croix, la passion du Christ, René Girard considère que cet événement qui a révélé la fausseté des mécanismes du bouc émissaire qui fonde une violence collective, qui fonde les sociétés archaïques. Donc on est tout à fait au cœur de sa pensée avec ce thème de la croix. Et le thème de la croix, il débouche évidemment sur la question de l'Eucharistie. Alors René Girard ne s'y est pas penché directement, et c'est l'un de ses amis et disciples girardiens régional, si on peut dire, puisque Pierre Gardeil était, outre qu'il était philosophe, il était directeur de l'établissement Saint-Jean de Lectoure, et il a écrit un ouvrage fondamental sur la question de l'Eucharistie dans une perspective girardienne, qui est 15 regards sur un corps livré. Donc voilà, perspective girardienne, Eucharistie, et rendre hommage à la pensée et aux travaux de Pierre Gardeil.
15 regards sur le corps livré, dont la préface est signée par René Girard lui-même. Et voilà pour l'explication et l'origine. Alors l'origine tout de même de ce colloque en lui-même, c'est aussi une rencontre entre Benoît Chantre et Jean-François Gardeil, le fils de Pierre Gardeil.
Oui. On peut dire que c'est un colloque qui est né d'une double fidélité. La fidélité de Benoît Chantre à René Girard, puisque Benoît Chantre était l'ami, l'éditeur et co-auteur du dernier livre de René Girard. Et puis également fidélité de Jean-François Gardeil à l'égard de son père. Donc Jean-François œuvre beaucoup pour faire diffuser et connaître la pensée de son père.
Quel est le programme de la journée du 12 octobre et comment va-t-elle se dérouler, avec quels intervenants, sachant que tout se passe à la salle Saint-Pierre et Saint-Paul du Christ-Roi, sous l'église, au 26 rue de l'Aude, à Toulouse. Comme ça, on a les informations pratiques d'emblée.
Alors, la première conférence, ce sera d'abord une conférence donnée par Benoît Chantre qui explique la pensée de René Girard pour que toute l'assistance se remette un peu dans la logique de la pensée anthropologique de René Girard. Dans un deuxième temps, on aura l'intervention du père James Allison qui expliquera en quoi le christianisme et l'Eucharistie se trouvent au cœur de cette vision anthropologique de René Girard. Nous aurons ensuite une petite pause musicale. Et la conférence suivante, c'est plutôt une discussion à bâton rompu qu'une véritable conférence. Ce seront des proches de Pierre Gardeil, dont Jean-François, qui nous parleront de Pierre Gardeil lui-même, quel homme était-il. Et ensuite, nous partagerons sur place un déjeuner et nous reprendrons à 13h30 les conférences avec le frère David-Marc d'Amonville, qui nous proposera une thématique sacrifice et Eucharistie, mais je crois qu'il sera à présent un peu plus tard dans l'émission.
On va l'avoir tout à l'heure, voilà. Effectivement,
donc,
au téléphone.
Il nous en dira plus. Et ensuite, nous aurons, avec le frère d'Amonville, James Allison et Benoît Chantre, une table ronde dont le titre est de ce que la pensée de Pierre Gardeil apporte à la compréhension de l'Eucharistie. Là, c'est vraiment la séance, le débat qui sera vraiment le cœur du sujet. Nouvelle pause musicale, et ensuite, nous aurons l'intervention de Claire, mais je lui laisse le soin de la présenter tout à l'heure. Et puis, nous aurons une dernière conférence, de Jean Nérolle, qui est un professeur de l'histoire de l'art à Toulouse, et qui a écrit deux ouvrages remarquables pour interpréter l'histoire de l'art dans une perspective girardienne. Et donc, lui, il viendra nous expliquer, en commentant des tableaux, comment est-ce qu'on peut illustrer finalement cette question de l'Eucharistie au cœur de la pensée girardienne. Ensuite, nous aurons une espèce de table ronde de conclusion entre tous les conférenciers, et la journée se terminera avec un concert à l'église, juste au-dessus de la salle de conférence.
Oui, parce que la musique va être très présente aussi durant toute cette journée.
Oui, la musique est très présente parce que Pierre Gardeil était un grand passionné de musique. Son fils Jean-François est un
grand chanteur lyrique qui a fait une magnifique carrière à l'opéra,
de la scène, pas seulement à l'opéra d'ailleurs. Et qui était aussi un spécialiste des mélodies. Et à Saint-Jean-de-Lectour, Pierre Gardeil avait fondé le chœur, et c'est en chantant dans ce chœur que Béatrice Uriamonzon a eu la révélation de sa vocation musicale. Donc, c'est quand même intéressant. Voilà, c'est pourquoi Jean-François a souhaité que la journée soit parsemée de musique et conclue par un concert.
Alors, deux autres précisions importantes. Il faut s'inscrire au préalable si on veut participer à ce colloque. Et puis, il y a des frais d'inscription. C'est 27 euros.
La participation est de 27 euros. Et il est possible également de n'assister qu'au concert. Là, la participation se ramène à 14 euros.
Et dans ces 27 euros, il y a aussi la restauration qui est prévue
dans
sur place.
Dans les 27 euros, il y a les conférences, la restauration prévue sur place et le concert. Je voudrais dire aussi que c'est la librairie Ombre Blanche qui nous fait l'amitié d'assurer une librairie ouverte pendant cette conférence avec des ouvrages des intervenants et des auteurs.
Donc il y aura des ouvrages de René Girard, de Pierre Gardeil et des ouvrages sur René Girard, sur Pierre Gardeil.
Voilà, des ouvrages aussi de
Jean Nérolle, sans doute.
De Jean Nérolle, de James Allison, de Jacques Maritain et du frère d'Amonville.
Alors, comme vous l'avez compris, nous allons donner la parole à quelques-uns des intervenants du colloque La Seine et la Croix. Et nous allons commencer par celui qui s'exprime en premier le 12 octobre à 9h40. Benoît Chantre va intervenir sur le thème « La théorie mimétique ». Bonjour Benoît Chantre, je rappelle que vous êtes président de l'association Recherche Mimétique qui promeut l'œuvre de René Girard. Vous avez été l'ami du père de la théorie mimétique et vous lui avez consacré une colossale biographie sobrement intitulée René Girard et parue il y a un an chez Grasset. Quelle forme allez-vous donner à votre intervention lors du colloque du 12 octobre à Toulouse, donc je le rappelle intitulé La théorie mimétique ?
Eh bien, ce ne sera pas d'abord mon intervention, mais ce sera l'intervention de plusieurs personnes, parmi lesquelles j'interviendrai, pour tenter de mettre au jour et de faire connaître la relation fructueuse qui fut celle de René Girard et de Pierre Gardeil, un théologien et philosophe qui fut aussi un directeur d'école dans le Gers, ami de Michel Serres, et qui, dès les années 70, entretint avec Girard une conversation très féconde et interrogea sa théorie du religieux, sa théorie du sacrifice, pour l'articuler plus profondément à ce qu'il appelait, lui, le sacrifice chrétien.
Est-ce que vous allez rappeler, pour commencer peut-être, les fondements de la théorie mimétique, ses applications, ses développements ?
Absolument, je rappellerai brièvement au tout début de la journée les quelques thèses essentielles de René Girard en montrant que Girard a su le premier, au tout début des années 70, donner une description cohérente et complète de l'institution du sacrifice comme moteur de toutes les cultures humaines. Et il a montré par ailleurs, à la fin des mêmes années 70, comment la révélation chrétienne détraquait de l'intérieur ce mécanisme victimaire et mettait fin à cette fécondité toujours dissimulée de la violence. Cette démythification judéo-chrétienne, pour parler comme Girard, c'est la grande thèse de son dernier livre que Pierre Gardeil a particulièrement interrogé. Mais curieusement, après ce livre, Girard s'est un peu désintéressé ou détourné d'une étude précise des rituels. Il avait parfaitement montré et produit une synthèse de très nombreux rituels archaïques. Il ne s'est pas attardé sur la spécificité du rituel chrétien. En l'occurrence, sur la spécificité du rituel eucharistique sans lequel il n'y aurait pas d'église. Et c'est sur ce vide au cœur de sa théorie que Pierre Gardeil, dès les années 70, l'interroge, ainsi que quelques théologiens qui commencent à se lever et à devenir ses interlocuteurs. Et donc, il était intéressant de faire réagir à Girard des théologiens. Alors, il y a des gens, des théologiens comme James Allison, qui sont girardiens, donc qui exposeront plus précisément la conception girardienne de l'Eucharistie ou la théologie qu'il a pu produire à partir des effets théologiques de l'anthropologie de René Girard, et d'autres théologiens qui viendront également discuter, voire critiquer cette théorie très puissante du sacré.
Merci beaucoup Benoît Chantre, on ne va pas en dire plus, hein. Il faudra venir pour vraiment assister à tous les développements que vous allez pouvoir faire autour de la théorie mimétique et puis de ce qu'on peut en dire par rapport au grand sujet de ce colloque qui sera l'Eucharistie. Merci. Autour de Jean-François Gardeil maintenant, il est également au téléphone avec nous. Bonjour et merci d'être au rendez-vous pour les auditeurs de Radio Présence. Je l'ai déjà dit en début d'émission, mais je le rappelle, vous êtes le fils du philosophe Pierre Gardeil et vous êtes également chanteur lyrique baryton. Vous avez effectué une très belle carrière à l'opéra et vous allez d'ailleurs nous faire profiter de vos talents de chanteur pendant les pauses musicales et le concert prévu lors du colloque. Mais je vais plutôt vous interroger sur la table ronde du matin. Je ne sais pas si c'est une table ronde, en tout cas 11h20, il y a un thème. Qui est Pierre Gardeil? Plusieurs de ses proches vont y intervenir, dont vous-même bien sûr. Qui sont les proches en question et comment allez-vous présenter votre père? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Hein.
Oui, bonjour. Effectivement, nous sommes quatre enfants de Pierre et Simone Gardeil. J'ai le plaisir à défendre ses ouvrages. Et ce colloque, effectivement, est une occasion de mettre en valeur ce qu'il a écrit, peut-être de plus précieux à ses yeux, c'est-à-dire ses réflexions sur l'Eucharistie. Moi-même, je ne suis pas un intellectuel, donc je ne commenterai pas, je laisserai ce soin à ceux qui sont beaucoup plus habilités à le faire que moi, qui le feront en début d'après-midi, toujours du colloque, pour commenter ses 15 regards sur le corps livré, son ouvrage majeur, on va dire. Et moi, ce que je ferai en fin de matinée, en compagnie d'un ami et ancien professeur et collègue de Pierre, c'est de présenter effectivement sa personnalité. Alors, d'abord, je parlerai de mon père en tant que père de famille, celui qu'il a été, la manière dont il a grandi, d'abord à Stafford, puis à Lectour. Tout le monde sait qu'à Stafford est aux limites entre le Lot-et-Garonne et le Gers. Et ensuite, c'est là qu'il a effectué son enfance. Et ensuite, il a été professeur à Lectour, dans le Gers, qui est tout près de Stafford. Lectour, où il a été prof de philo, mais aussi prof de lettres. Et c'est peut-être là que ses plus anciens élèves ont reçu un choc esthétique et par rapport à la piété qu'il vouait à certains auteurs. Ce sont de très grands souvenirs qu'il a laissés auprès de générations d'élèves qu'il avait en français et naturellement en philosophie aussi. Je parlerai aussi du directeur, mais assez peu, parce que c'est mon ami et ancien collègue de mon père, Paul Favre, qui parlera après du directeur qu'il fut, du collègue qu'il fut pour mon père, et de l'ami également. Moi, je me bornerai à raconter un peu ce qui fut un grand personnage pour moi, pour ma fratrie, pour beaucoup d'amis, quelqu'un qui a laissé un souvenir immense, à la fois comme très grand enseignant et comme initiateur de quantité de projets, mais aussi comme un humaniste et un chrétien, comme on en rencontre peu ou pas. Son souvenir est extrêmement fort, bientôt 15 ans après sa disparition, et j'aurai plaisir à en parler, mais moi j'en parlerai à peu près un quart d'heure. Paul Favre parlera donc du directeur et du collègue pendant un quart d'heure. Ce sera la fin de la première moitié de la journée. Et voilà, enfin, je parlerai aussi, bien sûr, de ce qui a été un pivot dans sa vie, c'est-à-dire, autour de 40 ans, la rencontre avec Michel Serres et sa famille, du reste, parce que nos deux familles sont devenues très amies. Donc, ça fait maintenant une cinquantaine d'années, un peu plus même. Et Michel Serres et papa, qui ne se connaissaient pas avant, Michel Serres avait fait ses études à Agen, papa à Lectour, et quand ils se sont rencontrés par l'intermédiaire de leur frère, qui était industriel, ça a été une amitié spontanée, très forte, et qui a duré tout le temps de leur existence. Et je parlerai aussi du contact, d'abord avec la pensée de René Girard, qui est arrivé à mon père par l'intermédiaire de Michel Serres, qui lui a fait découvrir celui qui, Girard, n'était pas encore très connu en France, puisqu'il vivait et enseignait aux États-Unis. Et découvrant la pensée de Girard grâce à Michel Serres, mon père a eu vraiment un choc intellectuel qu'il attendait pour déployer véritablement ses ailes de penseur, puis d'écrivain. Il a été d'abord un excellent vulgarisateur de la pensée de Girard, et ensuite il a carrément prolongé la pensée de René Girard dans l'ordre notamment de la théologie, ce que Girard lui-même n'avait pas fait, et dont il lui était très reconnaissant, comme en atteste l'avant-propos, la préface que René Girard a écrite pour l'édition des 15 regards sur le corps livré, livre qui a été donc écrit, édité en 1997, dont on va largement parler le 12 octobre.
Alors, le 12 octobre, il va y avoir aussi, comme je l'ai précisé tout à l'heure et comme l'a précisé Jean-Louis Salasque, des pauses musicales et un concert. Est-ce que c'est vous qui avez choisi un peu les pièces, les œuvres et les compositeurs qu'on va entendre ce jour-là?
Eh bien, nous avons fait œuvre commune avec Jean-Louis, puisqu'il se trouve que Jean-Louis Salasque a écrit une création pour quatuor vocal, piano et violoncelle, qui s'appelle « Le corps livré », et que nous allons créer avec beaucoup de plaisir, parce que c'est une très belle œuvre, que nous allons créer effectivement lors du concert qui terminera la journée. Mais nous donnerons aussi d'abord un peu de chant grégorien et des pièces polyphoniques de Vittoria, mais aussi du XXe siècle, de Duruflé et de Poulenc, des quatuors a cappella. Il y aura aussi, c'est une part plus symbolique, le choral final de la Passion selon Saint Jean, qui invitera les anciens élèves de Pierre Gardeil à se retrouver pour l'interpréter. Bon, c'est un concert qui ne sera pas très long, mais il y aura auparavant deux pauses musicales. Je pense que Jean-Louis vous a parlé de la pause musicale du matin. Quant à celle de l'après-midi, elle sera plus récréative. On y entendra un air de Puccini, un air de Mozart. Pour ma part, je ne suis plus chanteur. J'interviendrai dans les pièces polyphoniques à quatre voix, mais aujourd'hui le chanteur de la famille, c'est plutôt mon fils, Philippe.
Philippe Estef. Philippe
Estef, exactement, Philippe Estef, voilà, qui fait très bien le job, mieux que moi aujourd'hui, largement, et donc je suis très heureux qu'il participe aussi à cette journée.
Et oui, il prolonge la tradition du beau chant lyrique dans la famille, Philippe Estef. Merci beaucoup Jean-François Gardeil. Bien, maintenant, on se reverra le 12 octobre. On va faire une pause musicale dans cette émission avant de reprendre nos échanges avec les autres intervenants du colloque La Seine et la Croix du 12 octobre à Toulouse. Pendant cette journée, il est donc prévu plusieurs pauses musicales et un concert en fin de soirée. On va y entendre entre autres trois antiennes hauts de l'Avent de Marc-Antoine Charpentier. Voici l'une d'entre elles, au Salutaris Hostia, dans une version des Arts florissants.
Thank you.
présence. Vivante Église, Éric Dupri.
Retour à l'antenne en compagnie de Claire Bressolette et Jean-Louis Salasque. Tous deux participent au colloque La Seine et la Croix, l'Eucharistie, vu par les philosophes René Girard et Pierre Gardeil. Samedi 12 octobre à l'ensemble paroissial du Christ-Roi à Toulouse. Nous allons poursuivre notre exploration du programme de cette journée avec un autre de ses intervenants, David-Marc Damonville, frère bénédictin à l'abbaye d'Encalcate. Bonjour frère David, vous allez intervenir en début d'après-midi à 13h30 sur le thème « Sacrifice et Eucharistie ». Est-ce que vous pouvez nous donner une sorte de résumé de ce en quoi va consister votre conférence ?
Volontiers. Je suis bibliste et donc c'est pour apporter un propos plus nettement biblique que j'ai accepté de participer sur justement la confluence entre René Girard et son creusement de toute la rhétorique des sacrifices et de ce que ça représente dans la vie d'humanité. Et puis Pierre Gardeil qui, au niveau de l'Eucharistie, réfléchit en girardien, mais aussi avec toute la liberté de sa foi, de sa pratique religieuse, de son attachement à une tradition de l'Église, et qui apporte des pistes un peu neuves pour relire l'Eucharistie. Pour prendre l'exemple le plus simple, ce que je vais développer, c'est simplement le fait que le mot « sacrifice », au niveau du Nouveau Testament, n'a jamais désigné l'Eucharistie. Et dans nos liturgies d'aujourd'hui, le mot « sacrifice », il est omniprésent dans la liturgie. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on a pu passer d'une sorte de tabou du sacrifice propre au Nouveau Testament et bien lié à l'événement du Christ Sauveur, du Christ en croix, à une resacrificialisation, je ne sais pas comment le dire, c'est tout à fait barbare, de l'Eucharistie. Ça a mis des siècles, c'est pas un phénomène ponctuel, c'est aucune volonté personnelle de personne, mais c'est un effet de la tradition qui est indiscutable. Et c'est sur ce point-là que je voudrais apporter quelques pierres en réfléchissant sur les mots, sacrifice bien sûr, et puis quelques autres.
C'est-à-dire vous allez rappeler aussi ce qu'on pourrait appeler des fondamentaux concernant la notion de sacrifice et la notion d'Eucharistie, ou plutôt l'acte d'Eucharistie.
Oui, tout à fait, mais surtout finalement un positionnement de Jésus dans son enseignement, dans sa pratique et dans ce que ses disciples nous en rapportent, qui est un positionnement ouvertement opposé au temple et au système sacrificiel. Et donc, lui va prendre en quelque sorte les mots des prophètes, parce que les prophètes déjà dénonçaient d'une certaine façon le temple, le sacrifice, les prêtres et tout ce que ça pouvait représenter de non-éthique et d'hypocrisie dans la pratique. Donc, Jésus va reprendre ça de façon très caractéristique. Et ça va produire un effet remarquable au niveau des écrivains du Nouveau Testament, notamment Paul, qui est quand même, même avant les évangiles, Paul parle très 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 peu du sacrifice, surtout si on retire les sacrifices païens dont il est question dans la lettre aux Corinthiens, par exemple. Mais il y aura la lettre aux Hébreux, et on ne peut pas parler de cette question-là sans évoquer la lettre aux Hébreux, qui va dire absolument la même chose, c'est-à-dire que le sacrifice, c'est fini. La croix du Christ nous en a libérés une fois pour toutes. Il n'est plus question de repartir dans un culte sacrificiel, mais il va le dire avec tous les termes du culte de l'Ancien Testament, tiré du Lévitique, etc. Et trois siècles après, c'est là qu'on ira lui fouiller les poches pour réinterpréter d'une certaine façon, de plus en plus fortement et en orchestrant de plus en plus fort, le thème du sacrifice du Christ. Alors c'est le sacrifice de la croix, mais petit à petit l'Eucharistie va se laisser complètement colorer par cet unique champ de référence. Et ce que Gardeil explique, et c'est très intéressant, c'est que c'est très dommage d'en rester là, parce qu'on laisse dans l'ombre quantité d'autres symboliques qui nous viennent de l'Eucharistie et qui peut-être seraient aujourd'hui infiniment plus parlantes à nos contemporains.
Et tout ça éclairé dans une perspective girardienne, bien sûr, tout ce que vous venez de dire nous ramène à la pensée de René Girard.
Je pense que Girard a clairement baliser le travail en montrant combien la croix, finalement, était le sacrifice du sacrifice. Dans la croix, le Christ a sacrifié le sacrifice. C'est comme ça que le dit, je ne sais plus quel auteur après lui, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Il n'est plus possible, si c'est Dieu qui prend la place de la victime, il n'est plus possible de regarder la victime avec des yeux anciens. C'est un travail qui est paradoxal parce que je crois qu'il y a une dimension anthropologique. J'espère bien que le colloque va nous permettre de creuser ça. Il y a une dimension anthropologique. Le Concile de Trente disait « La nature humaine ne peut pas se passer du sacrifice ». C'est écrit en toutes lettres par le Concile de Trente. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? La nature humaine ne peut pas s'en passer. Et est-ce qu'on n'a pas des comportements sacrificiels, même quand on a résolu de suivre le Christ et d'entendre son enseignement, et peut-être que la resacrificialisation de l'Eucharistie, elle procède de ça. C'est-à-dire, peut-être ce qui me vient, moi, c'est de dire la grâce, la gratuité totale, le don que fait Dieu aux hommes. Il n'est pas possible de l'accepter sans vouloir faire un contre-don, voilà, sans vouloir le mériter, sans vouloir échanger quelque chose. Parce qu'on est comme ça, rien n'est gratuit, le don appelle le contre-don. Et donc Jésus est venu nous annoncer que c'était le pardon, le don parfait, un don qui n'attend pas la réparation à hauteur parce qu'elle est impossible de toute façon. Je cherche.
Non, mais ce sont des questions et des sujets passionnants et bon, je sais qu'ils vont émerger non seulement lors de votre intervention, mais lors d'autres interventions durant toute la journée de ce colloque. Merci infiniment, frère David. À bientôt donc
le
12 au Christ-Roi. Après l'intervention de David Marc Damonville, il va y avoir un débat à 14h10 entre James Allison, Benoît Chantre et le frère David, encore lui, sur le thème « Ce que Pierre Gardeil apporte à la compréhension de l'Eucharistie ». Jean-Luc Salasque, très rapidement, elle va être animée par quelqu'un, cette table ronde ?
Oui, c'est moi qui vais l'animer. Et donc chacun fera un petit commentaire, et puis ensuite il y aura un débat, questions-réponses, puisqu'il y a des perceptions différentes entre frère David et James Allison, par exemple.
Oui, j'imagine qu'il va y avoir des nuances, et même peut-être parfois un vrai débat contradictoire. Pause musicale à 15h20 ensuite, et puis ça va être au tour de Claire Bressolette d'intervenir. Ce sera à 16h sur le thème Girard, Maritain et l'Eucharistie. J'ai dit que vous étiez une spécialiste de l'œuvre et de la pensée de Jacques Maritain, mais je dois préciser que vous connaissez aussi très bien celle de René Girard. C'est vous qui avez proposé ce thème, Girard, Maritain et l'Eucharistie. Pourquoi l'avoir choisi ? J'ai comme dans l'idée que l'Eucharistie doit être envisagée différemment, suivant que l'on se réfère à la pensée de Girard ou à celle de Maritain.
Oui, différemment, mais avec la belle différence que vient d'énoncer le père David.
C'est pour ça que ça fait un lien parfait avec votre intervention.
Oui, parce que Maritain va distinguer donc l'Eucharistie de la messe. Et c'est sur la messe que va porter le sacrifice et non sur l'Eucharistie. Et cette question, élaborée dans un écrit qu'il rédige à Toulouse, fait un lien finalement avec Gardeil, avec l'Occitanie, Toulouse. Maritain a vécu 12 ans ici. Elle est énoncée dans un texte qu'il prononce devant les petits frères en 1968, mais elle est déjà élaborée, pensée dès 1922, dans la correspondance qu'il entretient avec l'abbé Journet, le futur cardinal. Et c'est l'abbé Journet qui pose des questions sur le sacrifice de la messe. On sait que pour lui, il écrira le mystère de l'Église avec comme sous-titre « Le sacrifice », donc ce n'est pas remis en question. La nouveauté de Maritain, c'est qu'il va se positionner en philosophe et qu'il va rabattre les deux composantes de l'anthropologie, on va dire humaine, à savoir que nous sommes inscrits dans l'espace et le temps, sur l'Eucharistie et la messe. La messe, en tant que sacrifice, pose la question du temps. Comment faire coïncider un sacrifice passé qui a lieu une fois pour toutes et qui est réitéré, Maritain dit « appliquer » à chaque fois. Et comment, pour l'Eucharistie, parler de l'espace via la transsubstantiation. Et Maritain, là, va jouer finement, comme on peut dire, comme toujours. Il va faire remarquer qu'il ne s'agit pas tant de l'unicité de la victime que de l'unicité de la mise à mort, c'est-à-dire de l'action. Et mon propos, pour revenir à René Girard, qui est quand même le sujet de cette journée, c'est de poser la question, parce que René Girard, comme l'a rappelé Benoît Chantre, il y a un vide autour du sacrifice de l'Eucharistie ou de la messe, on voit bien que ce n'est pas la même chose. Je dirais plus qu'un vide, un trou noir, une béance. Et mon point de vue, c'est de poser la question de ce mécanisme sacrificiel qui, d'une certaine manière, part du premier ouvrage, Mensonges romantiques et vérité romanesque, où le désir mimétique est mis en place et suivra ensuite la violence est sacrée avec la théorie du bouc émissaire. On pourrait faire des hypothèses, Maritain a peut-être pu lire ou entendre parler du premier, mais pas du deuxième, il était trop âgé. Et dès lors, il y a une forme d'existentialité qui vient dans le désir mimétique et qui vient des personnages de romans. Des personnages de romans qui sont appuyés sur du réel. Et il me semble qu'on aurait dans cette théorie une mécanisation qui perd le caractère existentiel. Et tout l'enjeu, c'est de montrer que le point de vue de philosophe de Maritain à propos de ces deux composantes espace et temps qui permettent de dissocier le sacrifice de l'Eucharistie, le sacrifice porte sur la messe, revient mettre de l'existentialité. Tellement réel que pour Maritain, c'est ce que je vais montrer à partir de son écrit, il s'agit dans la consécration séparée de l'hostie et du vin, d'une séparation qui est la mise à mort. Et dans cet espace, dans ce temps, Maritain voit une sorte de réalisme qui va jusqu'à nous faire revivre en temps réel les moments de l'expiration du Christ. Donc on voit très bien combien ces 60 années de réflexion, 1922-68 presque, ont abouti chez Maritain à une note profondément existentielle qui vient réinterroger la théorie de Girard en disant est-ce qu'il n'a pas perdu une note existentielle dans le passage du désir mimétique de Mensonges romantiques et vérité romanesque à la théorie de la mécanisation du bouc émissaire dans son deuxième ouvrage, La violence et le sacré.
Et c'est ce que vous appelez, alors vous, un angle mort, je crois, dans la pensée de Girard. En tout cas, vous parlez de trou noir, vous, carrément.
Oui.
Si on est gentil, on va parler d'angle mort. Mais vous pensez qu'il était conscient qu'il manquait quelque chose tout de même à sa théorie?
Non, c'est justement le trou noir vient révéler qu'il y a une absence.
Quelque chose qu'il n'a pas vu.
Quelque chose qu'il n'a pas vu et que je lis comme ce passage. Donc c'est une perte d'une note existentielle qu'il a dans le premier livre et qui est perdue quand on parle du sacrifice du bouc émissaire dans le deuxième livre. Et parce que la messe, en tant que sacrifice vu par Maritain, reconduit cette note existentielle, il n'y a pas de glissement pour moi. Vraiment, ce n'est pas un glissement qui récupère du vétérotestamentaire. C'est au contraire une vision éminemment juste. Et Gardel va nous éclairer. On a entendu parler de l'humanité du Christ. C'est là le nerf de la guerre pour comprendre l'existentialité. Maritain, Jacques Maritain et Raissa insistent tellement sur cette humanité du Christ.
Merci Claire Bressolette. Voilà donc rapidement résumé, mais on va rentrer beaucoup plus dans le détail lors de votre conférence. Girard, Maritain et l'Eucharistie le 12 octobre. Jean-Louis Salasque, il y aura une dernière intervention, ce sera celle de Jean Nérole à 17h20 sur le thème « La réelle présence de l'image à l'Eucharistie ». Vous pouvez nous dire quelques mots sur le contenu de cette conférence et sur peut-être Jean Nérole lui-même, vous en avez déjà parlé, mais on peut peut-être redire un mot sur lui.
Oui, donc il est professeur d'histoire de l'art à Toulouse et donc il a intégré la théorie mimétique, si on peut dire, la vision mimétique, la vision du sacrifice dans son interprétation de l'évolution de l'histoire de l'art. Bon, en deux mots, c'est petit à petit avec l'art moderne, c'est l'artiste lui-même qui se propose comme, disons, bouc émissaire ou en tout cas objet sacrificiel. Et donc cette interprétation, elle est fortement liée, évidemment, avec la question du sacré et de l'Eucharistie.
Donc intervention Jean Nérole sur le thème « La réelle présence de l'image à l'Eucharistie » à 17h20, à 18h, table ronde avec tous les conférenciers. Donc il y aura une sorte de bilan de la journée. Qui va le faire d'ailleurs ce bilan? Ils vont le faire tous ensemble?
Voilà, non, bah là aussi j'animerai un petit peu ça. C'est une prise de parole de chacun pour qu'ils disent un peu comment il a ressenti cette journée,
ce qu'il en a retenu,
les points principaux. Voilà.
Et il y aura des questions du public qui seront possibles à ce moment-là.
Il y aura des questions du public.
Oui. Aussi, à la fin de chaque conférence, éventuellement.
Tout au long de la journée, tout au long des conférences, il sera possible effectivement au public de questionner les conférenciers.
À 19h, le concert qui va avoir lieu non pas dans la salle Saint-Pierre et Saint-Paul, mais à l'église.
Voilà,
au-dessus.
On monte à l'étage.
Voilà, musique de l'Eucharistie, vous avez appelé ça musique de l'Eucharistie, donc elles seront toutes reliées au sujet du jour.
Oui, exactement, elles ont été choisies pour ça.
Vous pouvez nous donner peut-être les noms de quelques compositeurs, ça pourrait intéresser ceux qui nous écoutent.
Oui, alors bon, il y aura du chant grégorien, il y aura des antiennes de Marc-Antoine Charpentier, mais je crois que vous avez fait allusion tout à l'heure. Des polyphonies, donc a cappella de Victoria, du Rufflet, Poulenc, et puis donc un choral terminal de Jean-Sébastien Bach.
Jean-François Gardel devrait être parmi les chanteurs.
Voilà.
Et puis tout ça se terminera évidemment autour d'un buffet de l'amitié à 20h.
Oui, peut-être un peu avant là, parce que dans le timing qui est indiqué, oui, alors il faut aller sur le site pour s'inscrire.
Oui, bien sûr.
Et pour découvrir le programme tel qu'on vient de le présenter. Et le timing est un peu étiré, donc la conférence, la table ronde finale de conclusion, elle sera quand même pas très longue, et on passera au concert rapidement pour pouvoir être sur le buffet de l'amitié plutôt vers 19h, 19h15.
Et donc, présence de la librairie Ombre Blanche, avec des ouvrages qui pourront être achetés sur place.
Voilà.
Dès le matin ?
À partir de midi.
À partir de midi, donc plutôt en fin de matinée ou début d'après-midi. Eh bien, on va conclure cette émission. Merci encore à tous les deux d'en avoir été les invités. Merci également à Benoît Chantre, Jean-François Gardel et au frère David d'avoir été au téléphone avec nous. Je rappelle que le colloque « La scène et la croix, l'Eucharistie » vu par les philosophes René Girard et Pierre Gardel a lieu à Toulouse le samedi 12 octobre à la salle Saint-Pierre et Saint-Paul de l'ensemble paroissial du Christ-Roi. L'adresse, c'est le 26 rue de l'Aude. Accueil du public à partir de 9h. On peut arriver à 9h.
Hein. Même à 8h30.
Même à 8h30. Petit déjeuner sur place sans doute, en tout cas pour boire un café.
Un petit café, oui.
Je rappelle aussi qu'il faut s'inscrire au préalable pour participer à cette journée sur le site www.rené-girard.fr. Le montant d'inscription est de 27€ et comprend la restauration sur place. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la réalisation Christophe Aubry. Merci à tous de votre fidélité à Vivante Église. À la semaine prochaine.